France Inter.
Je me souviens, c'était un vendredi après-midi.
Tu venais répéter chez moi à Paris.
Tu m'avais dit:
tiens, j'ai retrouvé un vieux pet, mais gardons-le pour la fin de la répète.
On a un peu travaillé et puis on l'a allumé.
On aurait dû prévoir qu'il allait nous mettre une tartelette. Une tartelette.
Te souviens-tu de mes yeux en phare de camionnette? Je t'ai demandé, n'as-tu pas trop chargé la bête?
Ah oui, peut-être, maintenant que tu me le dis. Il est possible en effet que j'en ai un peu trop mis.
Et c'est une tartelette. Entre amis, elle te surprend, tu la regrettes. Tu bades et tu ris, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette. Une tartelette. Toi t'es à moitié toi, moi je suis à moitié moi. On a la bouche pâteuse, on se parle pas.
Toi t'es à moitié toi, oui mais tu es chez moi. Combien de temps ça va durer l'effet de la tartelette? Entre amis, une petite claque derrière ta tête qui fait pas de bruit, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette.
Fumais toute la journée, mais je me suis bien calmé depuis mercredi dernier.
Moi je n'ai plus l'habitude, j'ai plus de 40 ans. D'ailleurs plusieurs de mes amis fument moins qu'avant.
Tu m'as proposé un verre d'eau, je t'ai dit oui.
Ça fait du bien un verre d'eau quand on s'est pris une tartelette. Entre amis, elle te surprend, tu la regrettes. Tu bades et tu ris, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette. Entre amis, une petite claque derrière ta tête qui fait pas de bruit, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris.
Toi t'es à moitié toi, moi je suis à moitié moi. On a la bouche pâteuse, on se parle pas.
Toi t'es à moitié toi, oui mais tu es chez moi. Combien de temps ça va durer l'effet de la? Combien de temps ça va durer l'effet de la? Combien de temps ça va durer l'effet de la tartelette?
Bonjour Alexis Hachka.
Bonjour.
Vous êtes venu sans joint.
Ah oui, bien sûr, oui. Je ne pratique plus.
C'est ce que raconte Tartelette, elle est drôle cette chanson. C'était inavouable, puisque c'est le titre du disque Inavouable. Vous avez avoué quand qu'il vous est arrivé de fumer?
Bah, c'est une chanson, ouais, qui parle effectivement de l'usage de la drogue chez les personnes de plus de 40 ans. Mmh. On parle souvent du fléau de la drogue chez les jeunes, et à raison, mais on oublie aussi que beaucoup peuvent rester collés. Et donc, ça nous a beaucoup amusé avec Benoît d'écrire ce morceau de deux hommes un peu trop matures pour fumer et qui se retrouvent comme ça, après avoir tiré deux lattes sur un joint, complètement bloqué et complètement scotché. Ça nous a fait beaucoup rire. Et comme ce spectacle Inavouable n'est basé que sur l'idée de rigoler, cette chanson-là était bien adaptée.
Voilà, puis transgresser aussi dans chacune des chansons. Inavouable, soudain, sur scène, vous avouez.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, on avoue de l'inavouable sur scène. Et en plus, comme la scène est une petite loge, parce que le décor, ça représente une loge, on laisse le public regarder par le trou de la serrure et donc écouter certains aveux, en effet.
Il y a vous, Alexis Hachka, et puis un vieux camarade.
Oui, Benoît Doremus.
Benoît Doremus. Alors, qui est Benoît Doremus?
Alors, Benoît Doremus, c'est un auteur-compositeur-interprète qui a été découvert par Renaud dans les années 2000. Je crois que on est en 2005-2006. Et puis depuis, bah voilà, c'est un garçon qui, comme beaucoup de troubadours, fait des albums, part en tournée. Sauf que là, on part en tournée tous les deux. Voilà, c'est ça qui est inédit sur ce projet Inavouable, mais sinon c'est un, voilà, c'est un ménestrel des temps modernes, qui a un gros talent d'écriture, mélancolique, que j'ai toujours adoré depuis que j'ai rencontré, et un humour que je partage avec lui.
Oui, parce que quand vous le définissez, vous vous définissez un peu Alexis Hachka.
Oui, on est de la même école.
École un petit peu à la fois mélancolique et caustique, c'est-à-dire pas dupe, mais l'envie de rire dans la vie, la vie qui est souvent tragique.
Oui, la vie qui est souvent tragique, et aussi envie d'y mettre de la douceur. Même quand il y a de la mélancolie, ou même quand il y a de la violence, transformer la violence en douceur d'une chanson, ça fait partie effectivement des choses qu'on pratique avec Benoît, dans une école où on a des chanteurs en commun, qu'on adore. Bon, il y a Renaud évidemment, qui nous a éduqués, parce que Renaud...
Vous l'écoutiez enfant ?
Moi, je l'écoutais enfant, je l'écoutais ado, je l'ai toujours adoré.
Est-ce que vous aimiez sa façon de regarder la société, les autres, la vie ensemble, le début d'un amour ou la fin d'un amour ?
J'aimais vraiment un cocktail de qualité chez Renaud, son humour, sa présence aussi, même en interview. Quand on regarde des interviews de l'époque, des grands albums, je trouve que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, comment il sourit, et puis après ses formulations, son humour extraordinaire, et effectivement cette écriture qui est faussement simple, avec un langage à lui aussi, qui a mis des mots qu'on connaissait pas et qui les a fait rentrer dans le langage courant. Enfin, c'est pas une légende de la chanson pour rien, Renaud. Il est là, et il est encore là, parce que il est dans notre cœur très profondément.
Il y a une chanson de lui en particulier qui vous touche et qui vous plaisait déjà enfant, c'est « Ma chanson leur a pas plu ».
J'avais écrit une chanson, un vrai tube, un truc en or, avec des paroles en béton, une musique, le genre Milord. C'était pas vraiment mon style, je me suis dit, je vais la placer. Ça devrait pas être difficile, y'a de la demande dans ce métier. J'ai rencontré Capdevielle au bar de l'Apocalypse. Je lui ai dit, écoute ma vieille, ça s'appelle le Cataclypse. Ça raconte l'histoire d'un ange qui est marchand de certitude et qui poignarde dans ce ciel étrange le fantôme des solitudes. Il est pote avec Mary, la vestiaire du crépuscule, où tous les gardiens de la nuit viennent jouer les funambules. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de malaise, je la remets dans ma culotte. Mais tu sais pas ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu. N'en parlons plus.
Décrivez-nous le môme Alexis qui écoute Renaud là.
J'ai des souvenirs quand j'écoute cette chanson. Dans la ville où j'ai grandi, à Verneuil-sur-Seine, il y avait chaque année une espèce de petite fête comme ça, avec un pratos, une scène qui était installée, et des petits spectacles, et des chansons, et je regardais ça en rêvant. Et ça me ramène à Renaud d'avoir cette pensée-là, parce que cette chanson-là, ma chanson leur a pas plu, elle m'a toujours fait hurler de rire, mais au-delà de ça, elle racontait aussi le métier de chanteur. Elle raconte vraiment comment ça se passe. J'écris une chanson, j'essaie d'aller la vendre, et puis je me fais un peu jeter de partout, toujours cet humour extraordinaire. Et moi, la vie au-delà de la pratique de la chanson, la vie de chanteur me plaisait déjà beaucoup, m'attirait beaucoup. J'aimais Brel, Brassens, à la fois pour leurs chansons, mais j'avais aussi l'impression qu'ils avaient réussi leur vie, qu'ils avaient réussi leur chemin en toute liberté. Et Renaud m'a toujours provoqué cet effet-là. Et donc, quand je regardais ces petits concerts sur la place du village, j'étais vraiment, qui était extrêmement timide, il m'a fallu beaucoup de temps pour monter sur une scène et chanter devant un public. J'étais dans ce rêve-là, donc c'est un rêve vraiment lointain. C'est pas quelque chose qui est arrivé plus tard ou qui s'est manifesté après. C'est vraiment quelque chose de lointain, profond, et à partir de ces figures-là, qui sont pour moi, de grands hommes qui
aident à se construire quand on est Alexis Hachka. Ça veut dire que vous avez réussi votre vie, Alexis Hachka.
Je crois que j'ai plutôt bien réussi ma vie. En tout cas, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a tous les chanteurs ont dû déjà vous le dire, parce que vous en rencontrez beaucoup. le facteur chance est aussi énorme. Il y a des occasions qui se présentent, il y a des opportunités à certains moments, qui changent votre vie et qui définissent votre trajectoire. Et c'est le chanteur Dave qui dit les trois moteurs de ce métier, il dit TTC, travail, talent et chance. Et j'aime beaucoup cette formule. travail, ça c'est certain, et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Plus le temps passe, plus il faut bosser quand on fait ce métier, encore plus qu'avant. Le talent, bon ça, on choisit pas, on essaye d'en avoir, mais si on n'en a pas, il faut au moins, comme disait Jacques Brel, avoir une grosse envie, une belle envie. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose, disait-il, et la chance, qui est là, incontrôlable et capricieuse, parfois très favorisante. Parfois, elle se présente même à des moments où vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, vous n'avez pas l'expérience nécessaire. Mais elle, elle est vraiment indispensable pour pouvoir avancer.
On va voir quelle chance vous avez eue, Alexis HK, vous qui avez aujourd'hui 51 ans, donc depuis 30 ans ou 20 ans, vous chantez.
Moi, je définis vraiment le début de ma carrière professionnelle, entre guillemets, à 2002. Parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à faire des tournées.
Et à enregistrer.
Et à enregistrer, mais mon métier, c'est quand même de partir en tournée. C'est-à-dire, c'est vraiment le cœur de métier pour moi, dès le début. Monter sur scène, partager avec les gens. Et les albums, c'est extraordinaire. Mais il m'a fallu plus de temps pour apprivoiser le côté enregistrement, qui est encore un autre univers. Par contre, dès le début, moi, je me suis positionné comme un baladin, c'est-à-dire vraiment, je veux partir sur les routes, je veux dormir dans des hôtels, je veux partager avec des musiciens ou partir en solo et surtout rencontrer le public.
Vous auriez été au Moyen-Âge un troubadour heureux.
Absolument, absolument.
Camille Yembe fait partie des musiciennes que vous avez envie de nous faire écouter. Camille Yembe, qui est une des nouvelles révélations de la scène francophone.
Absolument, je l'ai découverte grâce à vous, en parcourant la playlist de France Inter, et j'ai adoré sa chanson, et notamment une phrase dans sa chanson, que je ne vais pas dire maintenant, parce que je ne sais pas si on va écouter le titre en entier.
En entier.
Ah, très bien.
C'est encore Camille Yembe dans la balade d'Alexis HK.
Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une môme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une homme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Tu te demandes si je suis tombée sur la tête. À parler d'espace, de chimères et de comètes. Je fais le compte des amours perdus de mes têtes. Mais toi tu penses que c'est la fête sous mon parapluie. Je collectionne les coquillages, les parenthèses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bof d'être à l'ouest? Sans faire exprès, j'étais pareillé mes chaussettes. Et toi, tu penses que c'est la fête sans parapluie. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop bu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une homme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma galerie, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une homme qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. Plus de néons sur ma gueule, est-ce que je le mérite? Moi je suis qu'une homme qui rêve, je ne suis pas de l'élite.
Alors, quelle était la phrase de Camille Yembe qu'Alexis HK aimait particulièrement?
Alors, moi, je ne suis qu'une ombre qui rêve, je ne suis pas de l'élite. Je trouve que c'est une petite pépite de phrase qui parle à la fois de l'humilité et une ombre qui rêve. Je trouve que il y a une consonance là-dedans qui marche très bien.
Oui, et puis une poésie.
Et une poésie. Mmh. Et puis c'est un morceau qui est quand même plein de désespoir contemporain. Il y a quand même quelque chose dedans de profondément... qui à la fois espère le vedettariat, la célébrité, mais qui est aussi perdu. On a trop bu, on fait nos affaires, mais on est un peu perdu. Et c'est très intelligemment mené. avec cette espèce de ton un petit peu, voilà, un petit peu pas nonchalant, mais il y a une espèce de petite provocation dans le ton, mais très très bien dosée. Donc voilà, et surtout cette phrase m'a tout de suite frappé l'oreille.
On peut être jaloux du talent des autres ?
Je ne crois pas. En tout cas, je pense que c'est une mauvaise chose, comme toute forme de jalousie. Je rejette profondément le sentiment de jalousie, même si parfois on ne peut pas l'arrêter.
Ça pourrait être inavouable.
Absolument. Ah bah, dans l'inavouable, il y a effectivement la jalousie, l'adultère, toutes ces questions-là.
Il y a une chanson qui dit « On se réjouit parfois du malheur des autres ».
Oui, alors ça c'est la chanson qui s'appelle Schadenfreude.
Oui, c'est un mot allemand hein, qui veut dire ça.
C'est un mot allemand qui veut
alors,
dire ça.
Alors, traduction du mot.
Traduction du mot, se réjouir du malheur d'autrui. C'est-à-dire, vous entendez quelque chose de fâcheux dans la vie de quelqu'un, et au lieu de vous peiner, ça vous réjouit, sans doute parce que ça compense chez vous une frustration, quelque chose, et ça n'existe qu'en allemand, et c'est une chanson qui parle des mots qui n'existent que dans une seule langue, et nous on en a en français aussi. Comme déjà vu, par exemple, défenestré, ou bifle, qui est dans cette chanson, mais que je ne vais pas décrire à l'antenne de France Inter, vous irez chercher chez vous.
Voilà. C'est bien, vous savez teaser votre disque, inavouable. Photo du disque, vous êtes en smoking, tous les deux, avec Nœud Papillon, et vous chantez avec votre guitare, hein, vous avec un ukulélé, parfois vous avez une flûte traversière, tout ça en smoke.
Oui, alors l'idée, quand on a fait le spectacle, c'est moi qui ai proposé ça à Benoît. Je lui ai dit, tu sais, je pense qu'on peut dire plus de choses inavouables quand on est bien habillé. Et le smoking, ça nous sortait un petit peu du costume, cravate, de vendeur d'aspirateur. Et puis ça fait comme deux espèces de noceurs post-apocalyptiques qui sont là. On ne sait pas s'ils vont travailler dans un restaurant de fruits de mer ou s'ils vont nous faire un tour de champ. Et, ou s'ils font ça pour s'amuser entre deux métiers. Enfin, je trouvais ça très drôle.
Et ça donne à votre tournée.
Et ça donne de l'élégance.
De l'élégance. On se souvient que Thierry Luluron
était
en costume Nœud Papillon. Hein,
ouais, tout en
noir, tout en disant des horreurs. Mais
tout
en nous en rire surtout.
C'est ça, avec cette espèce de détachement, comme ça, un peu ambiance cocktail. Cocktail, verre de champagne, smoking.
Et votre concert ressemble effectivement à un spectacle. On est un peu au cabaret, on est un peu sur une scène de stand-up.
Oui, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire c'est un dialogue entre deux artistes qui sont là. On ne sait pas s'ils se préparent à monter sur scène ou s'ils sont déjà sur scène, mais ils sont dans leur loge. Le décor est une loge. Et au milieu de ce décor, ils dialoguent tous les deux. On sait que dans une loge, on peut attendre beaucoup. Et eux, au lieu d'attendre, ils écrivent des chansons qu'ils n'auraient jamais dû livrer à un public, même averti. Et donc, du coup, le public se réjouit avec nous.
Oui, il y a une complicité.
Il y a une vraie connivence, une vraie complicité. Et moi, rien ne me fait plus plaisir que d'entendre après un spectacle « Merci, vous nous avez fait du bien », du public qui repart avec le sourire aux lèvres. Et ça, voilà, là, on se sent utile à vivre et à rêver, comme disait Julien Clerc.
Oui, comme disait le poète.
Comme disait le grand poète.
On va se balader dans votre discographie, donc à peu près 22-23 ans de disques, de chansons enregistrées, avec les choix musicaux d'Anne Weinfeld qui réalise l'émission.
Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient. Et les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit. J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupette étroite, ma démarche est bizarre. On dirait que je suis nominé pour les Césars. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Gentil machiniste aux doux accents du Gard qui m'ont permis de prendre prendre le train du mois d'août. Je m'en vais déverser les flots de mon coming out. Les jeux de langage des tout derniers vieux à chanter encore la langue des dieux, des sages. Le jeu des nuages partant nuageux a fait vieillir partant plus vieux le sage. On vit des fontaines, une pièce, un vœu, des jours de printemps qui rendent amoureux des femmes. Des oiseaux rares, des poissons précieux, des chênes de montagne au flanc neigeux et sages. Nous sommes égarés, nous étions une poignée de bougres à flâner le long des faubourgs trop vides, sur les bancs des dortoirs glacés de la ville, issus des rangs de la middle class du Middle West, fumeurs de bang blanc comme les neiges éternelles de l'Everest, zombies qui commentent la voûte céleste. Fils de hippies, fils de centristes, fils des enfants de mai 68, fils de l'idéal du général. Fils errant dans l'air mitterrand, fils de la bière et du néant, fils de l'idéal du général. Portés par des idées célestes, des pensées de goélettes, happés par les flammes muettes, échappés d'une amulette, portés par la charité des vents, hantés par les promesses du temps qui donne et reprend. Un rappeur, c'est comme un petit vieux qui radote sur ta tête pour faire de l'argent. Finalement, un rappeur, c'est comme un petit vieux qui radote dans sa tête et qu'à 17 ans, mais que se passe-t-il? J'attrape un style dérobé aux anciens, un ragadub sénile sur un beat de vaurien manifeste. Et je me dis qu'il faudrait que j'arrête le bon rap de papy qu'a le syndrome de la tourette. Faut que j'arrête. Pas me saquer en survette, en casquette de baseball. Ma bio se passe pas aux minguettes à l'entrée d'un hall. Je peux pas trop la jouer gangsta, alors que mon seul fait d'armes c'est une tablette Milka dans un carrefour à Paname. Faut que je me calme. En même temps, un rappeur, finalement un rappeur. En même temps, un rappeur, finalement un rappeur. Qu'est-ce qui m'arrive? J'attrape un style qui n'est pas le mien, un ragadub débile sur un beat de vaurien. C'est grotesque et je me dis qu'il faudrait que j'arrête le bon rap de papy qui a le syndrome de la tourette. Un continent de mes rimes liquides, un flot de mots délicats se distillent et font comme les chevaux intrépides hennissant dans la nuit de ta mélancolie versatile, agité par les ombres furtives, maison hantée de tes songes futiles. Les chevaux intrépides hennissant dans la nuit de ta mélancolie mercantile.
Alexis Hachka, combien d'années on vient de traverser? Vous aviez une trentaine, non, 22, 23, j'en rajoute toujours un peu. Vous étiez très attentif et quelquefois il y avait un petit sourire sur vos lèvres.
Oui, en fait, déjà parce que c'est une surprise pour moi, les titres qui ont été choisis. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses très différentes. Je me rends compte que j'ai toujours fonctionné à l'humeur. J'ai pas toujours fait très attention à l'air du temps. Et donc, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais.
Ce que t'es belle, coming out, les sages, fils voilà, de, porté comme un rappeur.
Il y a des trucs dont je suis, voilà, plus fier que d'autres, c'est-à-dire qu'une chanson comme Les Sages, par exemple, qui c'est vraiment le genre de chanson sur lesquelles on tombe quand on écoute l'album, quand on écoute un album, mais c'est pas un single. Et en la réécoutant, je la trouve jolie. Toutes les chansons un petit peu plus profondes me rendent un petit peu plus fier. La dernière, celle sur le rappeur, c'était vraiment un truc pour me marrer. Mais
on l'entend comme ça, hein.
Voilà, c'est ça, c'était pour rigoler, c'était pas pour attaquer les rappeurs, c'était aussi pour parler des vieux qui se plaignent du rap d'aujourd'hui. Et on n'a pas entendu le couplet sur le vieux rappeur qui arrive et qui dit « À l'époque, c'était pas la même limonade !» Et ça, c'est ça qui me faisait marrer.
Ça viendra. On entendait aussi une chanson, c'était la deuxième, sur un homme qui se fait agresser parce qu'il est féminin, ou transgenre, ouais, ou travesti, et ça s'appelle « Coming Out ». Elle est belle, cette chanson. Et vous aimez parler de ce qui se passe dans la société. Vous regardez beaucoup autour de vous?
Oui, je regarde autour de moi, je m'inspire et je suis aussi attiré par l'absurde de certaines situations de la société. Et je trouve qu'en ce moment, on est bien servi en matière d'absurdité. Donc quand je relève quelque chose, là, Coming Out, c'était vraiment une chanson où moi j'ai toujours été touché par le sort des minorités agressées. J'ai jamais, dans mon parcours à moi, je l'ai jamais vraiment vécu, mais j'ai toujours ressenti une grosse anomalie dans ce problème. Et en même temps, j'avais envie que ce soit pas qu'une chanson qui dise ça, mais qui est une espèce de pirouette à la fin pour montrer que voilà, on réussit quand même à surprendre et à sourire. Donc c'est parfois un petit peu tordu. Aujourd'hui, je considère le fait de faire des chansons comme un plaisir poétique de plus en plus gratuit, de plus en plus personnel, et donc je continue à regarder la société, mais j'ai aussi envie pour la suite d'aller regarder un petit peu au-delà, parce que j'ai l'impression qu'on est tellement clivés en ce moment, il y a tellement de séparations, qu'il nous faudrait en chanson aussi des paroles un petit peu plus rassemblantes, qui se mettent un petit peu au-dessus.
Pense à Souchon, full sentimental.
Absolument, absolument. Bah, Souchon, c'est un exemple extraordinaire. Moi, je suis allé le voir à Nantes, à la Cité des Congrès, j'ai pleuré pendant 1h15.
Avec ses deux fils?
Oui, avec ses deux fils en plus. Donc c'est vraiment un spectacle d'une émotion formidable. Et donc à trois comme ça, ça donne quelque chose, un mélange. Et puis les chansons aussi, parce qu'on oublie. Mais quand quand il y a une rétrospective comme ça, on réécoute des chansons et on se dit « Ah oui, il y avait celle-là aussi ». Et puis on se met petit à petit à sentir les larmes couler sur les joues.
Oui, et puis on le sent, son regard sur la société à Souchon aussi.
Absolument.
Sur les migrants, sur les SDF.
On se dit comment on en est arrivé là, en fait, en écoutant le concert de Souchon. On se dit comment la société a pu être malmenée à ce point-là, déchirée à ce point-là, alors qu'on a eu des chanteurs comme ça qui nous ont accompagnés. Il y a Souchon, il y en a d'autres. Et ça m'a vraiment fait cet effet-là quand je suis allé voir son concert. Je me suis dit, comment on en est arrivé là?
Et vous voyez aussi l'utilité des chanteurs.
Absolument, hein, absolument.
La nécessité.
Indispensable. Souchon est un indispensable, il est plus qu'utile, il est indispensable.
On a parlé du rap avec vous, puisque vous vous amusiez de celles et ceux qui peuvent dire du mal du rap, ou des vieux rappeurs qui peuvent aussi dire c'était mieux avant.
Ouais.
Et vous avez choisi un rappeur qui lui aussi est un auteur, un bel auteur, c'est Oxmo Puccino.
Oh, j'adore depuis toujours, d'une finesse et d'une... Pour moi, c'est des sages, voilà. Sola, Puccino, Kerry James, c'est des sages. C'est à la fois de grands poètes qui jouent avec les mots, mais aussi dans leurs propos, dans le contenu, ils nous ramènent à une raison, ils nous ramènent à l'humanisme, ils nous ramènent à l'humanité, et je ne les remercierai jamais assez.
Voici Oxmo Puccino et Turi qui chantent Magique, c'est le choix d'Alexis HK.
Laisse tomber la pluie, petit. Pas assez de soif ni d'appétit, tu vaux que dalle face à tout ce bruit. Tellement de galères téléphonées, à force de les voir venir, je fais l'étonné. Le bonheur c'est pas le cul ni les thunes, le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Relève tous les défis, terre plate, fusée, typhus, info diffuse. L'usine d'à côté privatise l'eau, cause des maladies chroniques et on oublie tout à Noël. Ce soir il pleut, qu'est-ce que t'es belle. Mets ton pyjama, on sort pas de l'hôtel.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Pas de seconde à perdre, laisse-moi kiffer tranquille. Trop de causes défendues me font siffler. Donner son avis, tout le monde s'y met. L'art est difficile, les postes font s'y mettre. Quand on pourrait se taire. À l'heure où je te parle, une bombe est larguée quelque part. Si 30 likes valent une vie, clique pour la planète. Ramasse les paillettes, rien dans l'assiette. J'suis né au bord du désert, un jour de pluie. Y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve.
J'ai juste eu le temps d'éteindre un putain de mégo. Et 9 mois après, je marche sur du Lego. J'entends les noms d'oiseaux que l'on prête à tous ces poètes.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique quand tu sais confier tes secrets à un piano.
De la difficulté d'écrire du rap. On a tendance à le caricaturer quand on veut rapper comme ça avec ses copains pour rire, mais quand on écoute avec attention, on voit le travail que c'est, et la production que c'est.
C'est une production magnifique, avec une ambiance comme ça très urbaine, et un propos qui là encore nous ramène à de la sagesse. C'est vraiment le mot qui me vient à chaque fois. J'ai l'impression qu'Oxmo Puccino, là, c'est quelqu'un qui nous dit « Oh, oh, reviens avec nous, calme-toi ». À chaque fois, dans toutes ces chansons, j'ai toujours ce sentiment-là.
C'est beau de le voir comme un grand sage.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais parce qu'on a besoin, je trouve, de voix qui nous, voilà, qui nous rassurent et qui nous ramènent à la raison sensible, à la raison de l'émotion et à la raison de l'humanisme. C'est très important, plus que jamais aujourd'hui.
Vous êtes né dans les Yvelines,
ouais.
Alexis Hachka.
À Poissy.
À Poissy.
Absolument.
Vous avez eu un peu de mal à l'école.
Ouais, j'ai eu un peu de mal au collège, ouais. J'ai été très malheureux dès mon entrée au collège, donc je me suis fait renvoyer, enfin, mes parents m'ont mis en pension, après la pension a fermé, j'ai rechangé d'école, puis après ils m'ont renvoyé, je suis retourné dans le public.
Qu'est-ce qui se passait mal, qu'est-ce qui n'allait pas ?
Je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à être intéressé. Je saurais pas l'expliquer, mais...
Ça s'est amélioré, puisque vous avez fait philo après.
Ouais, alors après j'ai fait philo, mais je suis pas allé très loin, parce que je savais que j'irais pas très loin, parce que vraiment les bancs de l'école, c'était pas vraiment mon truc.
Et puis la chanson vous démangeait.
La chanson me démangeait, mais surtout le besoin d'aller vivre, de savoir ce que c'est que d'avoir un boulot, de savoir ce que c'est que de plus dépendre de ses parents financièrement. Et ça, c'était très important pour moi.
Vous avez fait quoi?
Donc j'ai travaillé pendant quelques années à Canal+, Canal Satellite. J'avais un petit boulot là-bas, je répondais au téléphone pour les gens qui avaient des problèmes de décodeur ou qui avaient besoin d'une chaîne en plus sur leur satellite. C'était super.
Avec votre voix de crooner.
Oui, alors on me renvoyait les cas difficiles souvent, les mecs un peu énervés, on me les passait. Et c'est vrai que j'arrivais plutôt à les apaiser, à leur dire « Bon, attendez, on va regarder ça, monsieur, tout va bien se passer. »
Et le soir et la nuit, vous écriviez ?
Et donc j'écrivais dans la journée. J'étais très soutenu par... vraiment, c'était un environnement de travail extrêmement sympathique. Moi, c'était Canal, en plus, en 97, quoi. Il y avait une espèce d'ambiance comme ça, assez effervescente. Mes supérieurs savaient que que j'avais cette envie et ils m'ont soutenu. Et en 2002, j'ai pu partir et commencer à vraiment me lancer.
Et la musique dans tout ça, elle arrive quand ?
Ben, je faisais des concerts, voilà, quand je pouvais, dans la semaine, au Sentier des Halles.
Mais vous aviez appris ?
De petites salles. Alors, j'ai pris quelques cours de guitare, quelques cours de violon, mais comme vous l'avez saisi, l'école, c'est pas trop mon truc, c'était pas trop mon truc. J'avais quand même un prof de guitare que j'adorais, qui m'a appris de bons rudiments. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodidactes là-dedans, et une envie autodidacte, voilà, de liberté, d'écrire soi-même à sa façon. Donc du coup, en faisant aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de chansons très moyennes, beaucoup d'enregistrements, voilà. Mais j'avais le sentiment de devoir apprendre le métier de cette façon-là, en autodidacte. Alors qu'aujourd'hui, à 51 ans, je ne pense qu'à une chose, c'est d'apprendre de nouvelles choses, et ainsi de suite. J'ai peut-être un peu mûri, mais à cette époque-là, j'avais cette espèce d'envie un peu indépendante de faire les choses voilà, par moi-même, donc parfois de manière un petit peu chaotique. Et puis finalement, ça s'est quand même bien passé. Voilà.
Il y a des hommes importants dans votre vie, au-delà de votre propre cercle familial. Ces hommes, ce sont des artistes, des poètes. D'abord Brassens, qu'on écoutait dans la famille.
Bien sûr.
Alors, ce n'est pas la famille HK, c'est la famille...
C'est la famille Jos Kounian.
Voilà. Et c'est plus simple de dire HK,
c'est
possible.
Plus simple. C'est les deux lettres du milieu de mon nom voilà. que j'ai choisi à ce moment-là.
Brassens et Brel, les deux B.
Ouais, alors Brassens et Brel, c'était les deux oncles artistes de la famille, les deux oncles virtuels, c'est-à-dire qu'ils ont toujours fait partie de, voilà, de notre famille, mais aussi de beaucoup de familles françaises. Ce sont des chanteurs d'une popularité extraordinaire. Après, il y en avait d'autres qu'on adorait, quoi, tous les classiques. Reggiani, Barbara, Ferré, Gainsbourg, évidemment. Enfin, en chanson française, on a toujours été bien servi dans la famille. On a toujours beaucoup aimé les grands chanteurs français.
Les singes, c'est une chanson de 1961, à l'époque où il est déjà une star, hein, de Brel. Vous me l'avez fait découvrir, cette chanson.
Vous ne la connaissiez pas ?
Non. Ah bah, pourquoi vous l'avez choisie ?
Alors, je l'adore déjà, parce que c'est une chanson que les auditeurs vont pouvoir le constater, qui accélère. Et ça, je trouve ça vraiment assez dingue, une chanson qui commence doucement et puis qui accélère.
Ça, il aimait ça, Brel.
Et puis, c'est l'irrévérence de Jacques Brel, c'est son refus absolu du conformisme, de la conformité.
L'Église, les militaires, les hommes politiques.
C'est ce refus-là, ce refus-là qui est, dont on sent que ça remonte à très loin. Avec Brel, ça part toujours du fond du ventre, quoi. Il y a vraiment cette espèce d'intensité, de trip, et je trouve que cette chanson raconte ça, mais il en a tellement d'autres.
Le choix d'Alexis HK, Les singes, Jacques Brel.
Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés, et la fleur est en pot, et l'oiseau est en cage, et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné, et casier judiciaire et trou dans la serrure, et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés par des d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre. Quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes. Les singes. Les singes de mon quartier. Les singes de mon quartier.
Voilà, belle découverte pour moi, en tout cas les auditeurs la connaissent sans doute.
C'est une sacrée chanson, non ?
Vous aviez quel âge ?
Je sais pas, j'avais 15, 16 ans.
Quand vous découvrez ça ?
Quand je découvre cette chanson spécifiquement, mais Brel, je l'écoutais avant, à 3 ans et demi, j'avais un 45 tours avec un électrophone, où j'écoutais Jackie, j'adorais cette chanson.
Il était comme vous, il avait très peur de la scène. Hein ?
Il était très timide, extrêmement timide.
Vous, aujourd'hui, vous n'avez plus peur, mais il a fallu vaincre votre timidité.
Il a fallu vaincre sa timidité, et j'en ai discuté avec d'autres amis chanteurs, notamment un chanteur que j'adore, un grand chanteur qui s'appelle Yves Jamais, qui me racontait que lui, avant de monter sur scène, avant de faire ce métier, il était cuisinier. Et j'ai adoré son image. Il me dit, moi, j'étais habitué à être en cuisine, j'étais habitué à être derrière. Et quand il a fallu que je me retrouve devant, j'étais tétanisé, terrifié, et je comprenais tellement ce sentiment quand il me le décrivait. Et je suis pas le seul. Je pense que, vraiment, y en a plein qui étaient paniqués à l'idée de monter sur scène. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même une grosse exposition. Mmh. C'est quand même... on met en avant tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, on peut se planter, on peut réussir, mais en tout cas, on est là, un peu nu, devant le public. Mais après, quand ça se passe bien, par contre, c'est une sensation qui est de haute voltige.
L'inspiration vient régulièrement, vient tous les jours, frappe à la porte d'Alexis HK, puisque vous êtes venu avec une chanson que vous êtes en train de travailler, qui n'est pas complètement terminée. Je trouve ça adorable d'être venu avec une maquette.
J'avais envie de proposer quelque chose pour dire que je bosse, déjà.
à votre famille
Oui, c'est ça, pour montrer à ma mère que je travaille. Aussi, parce que je trouve que c'est une chanson qui a quelque chose, qui raconte quelque chose. Et aussi parce que c'est un travail un peu solitaire, donc ça fait du bien de le partager sur France Inter.
Il faudrait du papier bulle, il nous faudra des cartons, il faut que des bras nous aident à vider la maison. Il faudrait faire l'inventaire, il faudra tomber d'accord, il faut partager les terres et le décor. Les sous-tasses en porcelaine, la belle armoire vitrée, la soupière, le secrétaire en bois marqueté, la commode en formica, sous la télé des sixties, comme un monde qui s'immobilise.
Batterie, guitare, corde, accordéon, pour dire quelque chose de grave.
Ouais.
Hein, on sépare d'une maison, on fait son deuil, on fait l'inventaire.
Oui, ça m'a marqué parce que je l'ai vécu. J'avais envie vraiment d'écrire un vécu.
Vous avez perdu vos parents ?
Je n'ai pas perdu mes parents, mais on a vidé la maison de... une maison de la famille de mon épouse. Et donc je suis venu vider, faire des cartons. Et je pensais à toute la vie qui finit dans un carton, comme ça. Je me disais, je cherchais un peu le sens de tout ça.
Mais oui.
Je me disais, il faut vraiment qu'on se soutienne, quoi. Il faut vraiment que des bras nous aident à soutenir ça.
Mais c'est intéressant parce que tout ce que vous écrivez, j'ai l'impression, pour vous avoir écouté et réécouté pour préparer cette émission, c'est le vivre ensemble, c'est le prendre soin les uns des autres. Chanter pour vous, il y a un côté care, prendre soin de l'autre.
Oui, je pense. Moi, ce qui me fait très peur, c'est l'effritement de la société, des solidarités. J'ai vraiment peur de ça. Et en ce moment, il y a des discours que j'ai jamais entendus aussi violents sur le clivage et sur la détestation de l'autre. Je ne donnerai aucun exemple précis, tout le monde sait de quoi je parle. Et ça me fait effectivement très peur, parce que je trouve que c'est pas nous, en fait. c'est pas nous.
Donc la chanson peut, non pas changer le monde, on le saurait s'il a changé le monde, mais peut rendre compte de ça, et c'est vers ça que vous avez envie d'aller, Alexis HK.
La chanson environne le monde. Donc si vous écoutez que des chansons qui vous disent que votre voisin est un meurtrier en puissance, c'est sûr qu'à terme, vous allez finir par le penser. Si vous écoutez plus du Oxmo Puccino, dont on parlait tout à l'heure par exemple, vous aurez peut-être une influence plus positive, plus ouverte.
Et si on écoute du Vincent Delerme, qu'est-ce qu'on ressent ?
Si on écoute du Vincent Delerme, on a toujours un petit sourire aux lèvres, on a toujours cette petite appréciation d'intelligence, de finesse, qui fait du bien et qui nous nourrit. On a besoin de bonne nourriture. La chanson, c'est une nourriture comme la nourriture, comme celle qu'on mange. En fonction de ce qu'on mange, on n'aura pas la même santé.
Il commence une tournée exceptionnelle, là. J'ai vu le spectacle il y a quelques jours, c'est formidable. Il va aller évidemment un peu partout en France et revenir à La Cigale ensuite. Il met en scène son disque La Fresque et il se sert beaucoup d'écrans. Il y a 3 écrans avec projection de ses
photos. C'est un faiseur de spectacle incroyable.
C'est le musical un peu à l'ancienne, mais d'aujourd'hui.
Mais rétro-moderne.
Rétro-moderne, ouais. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça pourrait être dans une chanson d'Alexis HK. On écoute Louise Ciccone.
Louise Ciccone, tu ne connais pas la voix ferrée. Sœur Benamara, les histoires de ma cousine, la foire aux chiens, la T813, la piscine, Louise, tu connais rien.
Alexis HK aime les choses variées. Il est éclectique dans ses goûts, la preuve. Je suis en train de vous mettre une note. Mira, où vont les larmes ? Mira, elle est franco-brésilienne, elle a grandi à Paris, elle s'est formée au classique, au jazz. C'est une musique assez riche que la sienne, parce qu'elle peut croiser le hip-hop avec de la musique sacrée. Elle peut inventer une pop qui est mêlée de bossa. Est-ce que vous avez été sensible à quelque chose chez elle de précis ?
Il y a un côté, effectivement, il y a une liberté, en fait. Il y a une liberté. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une époque... il y a toujours des styles, bien sûr. On va toujours vous mettre dans une catégorie, parce qu'il faut bien qu'on présente au public ce que vous faites comme genre de musique. Mais sur le fond, il y a tellement de possibilités sonores, soniques, tellement de possibilités de scansions différentes, que ce soit chanté, rappé, que ce soit lyrique un peu plus flegmatique comme Vincent Delerme par exemple, que j'ai l'impression qu'il faut tout se permettre. Après, on peut se planter, mais il faut tout se permettre. Et là, on a l'impression d'avoir une artiste qui a pas peur de la liberté. Et en fait, c'est ça la vérité.
Vous disiez tout à l'heure, Alexis Hachka, que vous étiez arrivé à l'âge, on le disait 51 ans, où vous vous sentez capable d'aller vers de nouveaux horizons, d'essayer de nouvelles choses. Quelles seraient ces nouvelles choses ?
Alors, essayer de nouvelles choses, oui, mais après, pas essayer des nouvelles choses juste pour des nouvelles choses.
Oui, pas du rap.
Bah, en fait, c'est compliqué, il faut quand même avoir les codes, surtout le rap qui est une musique très mouvante et qui est la musique mainstream actuelle.
Et puis en plus, vous êtes dans une tradition
et moi,
de la chanson française.
Tradition de la chanson française, absolument, mais j'ai toujours adoré le rap depuis ses débuts. Non, par contre, c'est dans la manière de travailler. Aujourd'hui, à une époque, les chanteurs tels que moi, ils prenaient un papier, un crayon, ils écrivaient un texte, après ils prenaient une guitare, ils faisaient trois accords, et puis ça commençait à faire une mélodie. Aujourd'hui, c'est très différent. On peut ouvrir son ordinateur, on n'a aucune idée de chanson, on fait partir une mélodie ou un beat de batterie, on commence à chanter quelque chose dessus, et en fait, de rien, de nulle part, il y a quelque chose qui va naître. Et ça, c'est un travail intéressant. Changer de méthode.
Oui, changer de méthode.
Ouais,
peut-être que ça change l'écriture.
Et donc aujourd'hui, il y a aussi des IA qui sont très décriées, mais qui vont, à mon avis, tout bouleverser. Et moi, j'ai commencé à les regarder un petit peu et à essayer des trucs. Et c'est quand même assez bluffant. On sent qu'on peut faire aller les morceaux encore à des endroits différents. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver et il ne faut pas être dans la peur de l'intelligence artificielle à tout prix. Aller en contre ça, à mon avis, c'est très contre-productif.
Je connais des musiciens de votre âge qui sont contre. Hein.
Ouais, ouais.
Enfin, votre ouverture d'esprit, elle n'est pas si fréquente par rapport à l'IA.
Bah, en fait, ça fait toujours un petit peu peur au début, mais après, il faut aller regarder avant d'avoir peur.
Bah, toute cette interview a été faite par l'IA. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. On écoute Mira, Alexis Hachka, c'est votre choix dans votre balade sur France Inter. Où vont les larmes ? Magnifique ce métissage musical.
Ouais,
hein.
Elle est magnifique cette chanson.
Elle est riche. Hein.
Puis où vont les larmes, c'est des questions de poète tellement.
C'est vrai, se noyer
profond,
dans les larmes,
ouais.
C'est beau aussi. Et on pleure pas en se quittant là, Alexis Hachka.
Ah non, on ne pleure pas du tout.
Si on va vous voir dans Inavouable avec Benoît Doremus sur scène, et on peut le faire au moins jusqu'en avril. Hein.
On peut le faire jusqu'en avril et on ressort souvent assez heureux,
voilà.
Et sans pleurer, ça c'est
on
certain.
On peut peut-être pleurer de rire.
On peut pleurer de rire et on peut aussi avoir des petits sourires en coin et des petites connivences qui font du bien.
Vous avez pas mal d'enfants, est-ce qu'ils sont musiciens ?
Alors, ils sont très amateurs de musique.
Uniquement de leur père.
Alors, mon fils de 4 ans, oui, il aime beaucoup ce que je fais, donc j'ai au moins un fan, en tout cas pour le moment.
Surtout que vous avez déjà écrit des chansons pour enfants.
Et je pense que c'est lui, c'est le petit en fait, qui va faire de la musique.
Ah bon ?
Il joue déjà de l'harmonica hyper bien, alors que personne ne lui a appris, et il joue pas, vous savez, comme un enfant qui fait put put put, il fait vraiment des lignes mélodiques, et je me dis, quand ça commence comme ça, ça devrait continuer.
Et mais on attend un duo fils-père HK.
Avec plaisir.
Merci à vous, bonne tournée.
Merci à vous, merci infiniment.
Anne Weinfeld a réalisé cette émission, Fanny Leroy m'a aidé à la préparer, Valentine Chedebois a programmé la musique et il y avait à la technique Loïs Moreau.